Nous allons ouvrir nos Bibles, encore dans les Romains, l'épître de Paul aux Romains, et au chapitre 3. L'épître de Paul aux Romains, et au chapitre 3, nous avons vu les premiers 8 versets dimanche dernier. Donc nous allons commencer la lecture à partir du verset 9. Donc, Romains chapitre 3 et à partir du verset 9 et nous allons lire jusqu'au verset 22. C'est toujours l'apôtre Paul dans cet argument et en fait, vous savez, si on ne peut pas sauver quelqu'un, on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne se sent pas malade, qui ne sent pas le besoin. Hein, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un de la noyade si lui n'a pas l'impression d'être en danger. Hein, donc, et là, l'apôtre Paul passe beaucoup de temps à vraiment établir ce besoin et pourquoi Jésus-Christ est mort. Et ensuite, il traitera bien sûr du salut. Mais là, il nous présente vraiment il veut nous convaincre du besoin. Mais c'est pas si évident que ça pour convaincre les êtres humains du fait de leurs besoins. Donc, Romains chapitre 3, et je commence à lire au verset 9. Il dit, « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. » Et là, c'est le psaume 14 que nous avons lu tout à l'heure. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, un peu pour rester dans le contexte, parce que c'est une progression, hein, c'est tout un même raisonnement. Et donc, nous avons déjà vu que Paul insiste sur le fait que nous sommes tous pécheurs. Et là, il va encore insister dessus. Déjà, au chapitre 2, verset 1, il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Donc déjà, il dit « Écoute, il n'y a pas de différence. » Il parle de celui qui a connu la loi, celui qui ne l'a pas connu. Il a dit, vous êtes tous coupables. Au chapitre 2, versets 11 et 12, il dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Il dit, n'importe comment, tu as connu, tu n'as pas connu. Nous sommes inexcusables. Pourquoi ? Parce que chacun de nous avons des codes que nous nous sommes établis et que nous n'avons pas gardés. Donc, que tu aies connu la loi et tu n'as pas gardé la loi de Moïse et tu n'as pas gardé, ou que tu t'es donné des principes selon lesquels tu vas vivre et tu ne l'as pas fait, finalement, on est tous coupables. Hein ? Donc, il dit, voilà, il n'y a point d'acception de personne et normalement, ça ne devrait pas être difficile pour comprendre cela. Puis la semaine dernière, au chapitre 3, verset 9, il revient aux Juifs en particulier, et puis il leur dit, écoutez, quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Donc il dit, voilà, c'est pas, il n'y a pas de distinction, c'est pas parce que le peuple d'Israël a été choisi, élu, qu'il est, meilleur que les autres. Il dit, il a été choisi pour une tâche particulière, et on l'avait dit la semaine dernière, c'était pour porter la nouvelle, le message au monde entier, mais c'était pas pour, c'était pas ça qui allait faire d'eux un peuple meilleur. Il dit, on est tous pécheurs, et de nos jours, on pourrait dire, c'est pas parce que tu es né dans une église, ou c'est parce que pas, dans mon cas, parce que tu es fils de pasteur, que tu as été meilleur que les autres, hein. C'est peut-être que mon père, il était, pour vous qui le connaissez, il était assez sévère, que je n'ai pas eu d'occasion pour faire beaucoup de choses. Il était très vigilant. Et donc, voilà, je n'ai pas fait ce que certains ont fait, mais ce n'est pas parce que ce n'était pas là, mais c'est parce que l'occasion a manqué. Et ici encore, dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous dit « Car tous ont péché ». Et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le message, c'est clair, il ne fait aucune distinction. Alors, voilà, donc, comme il le dit dans le, donc au verset 9, hein, et nous l'avons lu, le début du verset 9, il dit « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et on pourrait s'arrêter là et méditer un peu sur le fait d'être sous l'empire du péché, et d'être dominé par cela, et pas des péchés, mais du péché. Et on reviendra là-dessus plus tard. Mais, et c'est vrai que nous voulions l'admettre ou pas, hein, que je sois, que je, on préfère ne pas croire cela, mais c'est difficile de dire autrement. Parce que parfois nous avons recours à cette pensée, et nous aimerons dire que nous ne sommes pas des plus mauvais. Il y a pire que nous. Et on se console avec cela. Ce serait le raisonnement qui consisterait à dire, par exemple, à moi, de penser, de mettre ma Volkswagen Bora dans une casse de voiture. Je dis, ben, elle est belle. Hein, elle est pas mal, elle est meilleure que les autres. Mais si je la mettais dans un salon d'automobile, alors là, elle rougirait de honte. Donc c'est une question de ne nous trompons pas, hein, dit ouais, mais il y a pire que moi. Mais oui, mais à qui est-ce que tu te compares, hein? C'est oui, par rapport à certains dans la société, les cas extrêmes, eh bien on pourrait dire, mais quand même, hein, j'ai des qualités, hein, c'est pas c'est quand même mieux, hein. Mais et si je me comparais à Jésus-Christ, alors là je ferais comment, hein, je ressemblerais à quoi? En fait, c'est lui, l'homme parfait. Et lorsque je me compare à lui et toute sa vie, je dis, oh, alors là, c'est plus à la hauteur. Vous savez, l'unité qui nous permet de mesurer les longueurs, les distances, c'est le mètre, hein, qui vient du grec métron, qui veut dire mesurer. Et c'était, au début, il y avait un étalon du mètre. C'était à la fin du XVIIIe siècle, on a pris une barre et puis on a dit, voilà, ça c'est un mètre. Bon, après, on s'est rendu compte que les métaux, ça change de longueur, il n'y a pas, c'était pas assez. Et apparemment, dans l'histoire du mètre, finalement, à plusieurs fois, on l'a défini autrement. Hein, il y a plusieurs définitions. La dernière, elle date de 1983. Hein, c'est, parce que c'est ça qui décide de tout. Et donc... vous savez, si on veut mesurer, il faut savoir ce qu'est le vrai. Hein, et donc, pour la vie de tous les jours, on trouve ça normal, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour notre vie spirituelle, notre vie morale? La première définition de la justice de Dieu, eh bien, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse, hein, sur le mont Sinaï. Et cette loi, Jésus l'a résumée lui-même en disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il dit, voilà. Alors qui? Voilà les talons de la justice de Dieu. Alors où est-ce que j'en suis? Bon, il y a pire que moi. Non, 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 non. Mais un mètre, c'est ou un mètre ou c'est pas un mètre. Hein, Vous allez au marché, vous trouvez les dames qui sont en train d'acheter du tissu. Hein, c'est pas, il dit, oh, bah, c'est presque un mètre. Non, 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 je veux un mètre. Hein, il faut le mesurer. On est exigeant sur tout. Alors, on veut la même la petite monnaie, et on veut le dernier, les derniers quelques centimes qui manquent pour la monnaie. On veut tout. Mais avec Dieu, on dit, non, non, mais écoute, excuse-toi, ferme les yeux, laisse passer. Vous savez, c'est l'étalon de la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que lui a accompli la loi. Il nous dit dans Matthieu 5, il nous dit, il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc ce n'est pas la fin de la loi, mais c'est que lui l'a accompli, et si nous sommes en lui, eh bien, nous pouvons être considérés comme l'ayant accompli. Hein, et donc certainement le dimanche prochain, on parlera plus de cette justification que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, il y avait une époque où on se disait que si l'homme pouvait être éduqué et s'il pouvait atteindre un certain confort dans la vie, il deviendrait meilleur. Hein, c'était un peu l'idée qui dominait après la Première Guerre mondiale. On s'est dit, ah oui, mais bon, les gens, c'était quand même terrible, et combien de morts et tout cela, mais si on avait on était éduqué, si on avait un certain confort, et on a travaillé là-dessus. Et merci Seigneur, hein, on a fait beaucoup de progrès en France, et il y a un confort, il y a une éducation. Mais est-ce que on est meilleur? Hein, est-ce qu'on est meilleur? Vous savez, ce qu'on trouve, c'est que de nos jours, tous les crimes du passé sont encore là. Et on les... Même avec l'éducation, même avec le confort matériel qu'on peut avoir et se donner, on a la possibilité de se donner des vacances, on a la possibilité de raccourcir les semaines de travail et toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est meilleur. Vous savez, que la cruauté soit faite au nom de la religion ou en l'honneur des droits individuels, vous savez, des hommes meurent, des femmes sont battues, maltraitées, des enfants subissent l'abus, des fœtus sont refusés la vie. C'est pareil. La cruauté, elle est toujours là. La méchanceté est toujours là. Elle est faite. Avant, on se disait, ben, c'était des sauvages, ce qui n'étaient pas. Ils sont pas aussi sauvages qu'on pense. Et aujourd'hui, on se doit éduquer, mais est-ce qu'on est moins sauvage? Hein, en fait, on change la forme, mais le problème reste le même. Vous savez, les animaux ne commettent pas les crimes que l'être humain commet. Comme disait quelqu'un, il dit... Les animaux se sentent insultés quand les hommes se disent animal. Ils disent non, nous, nos animaux, on fait pas comme ça. Nous, nos enfants, on les élève pas comme ça. Hein, c'est pas, on n'a pas des guerres mondiales comme eux, ils ont. On n'a pas d'abus comme ils ont. Hein, c'est un monde dur, mais c'est pas la même chose. Vous savez, à l'époque des juges, hein, c'était cette période, donc sous Josué, les enfants d'Israël sont rentrés dans le pays de Canaan, ils ont pris possession du territoire. Et donc, normalement, c'était tout le peuple de Dieu qui occupait Canaan. Ils étaient là partout. Mais vous savez, c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Juges chapitre 17, verset 6? Il nous dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui... C'est pas délibérément qu'ils essayaient de faire le mal. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais le résultat, c'est que c'était pas bon du tout. C'était même terrible. Et même de nos jours, lorsqu'on lit les juges, on dit oh, « C'est tellement difficile, j'arrive pas à lire ça, c'est terrible. » Et pourtant, ils faisaient ce qui leur semblait bon. Et aujourd'hui, dans notre société aussi, hein, tellement de gens font ce qui leur semble bon. Mais ce n'est pas toujours bon. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous cite tant de passages de l'Ancien Testament. Bon, une chose, c'est parce que c'est tout ce qu'il y avait à son époque. Mais deuxièmement, c'est que le problème, il persiste depuis longtemps. Et le constat qu'il fait dans ces versets 10 à 12, il dit « il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien ». Certains sont moins mauvais que d'autres, mais il y a un problème chez chacun. Et vous savez, il y a un problème de fond, il y a un problème du péché, et l'homme n'a pas la capacité de se soustraire de cette influence, de cette emprise, et on en souffre. Même celui qui essaye d'être honnête en souffre. En théologie, il y a le terme en emploi, on dit que l'homme est dépravé. Et bon, nous définirons ce thème un peu plus tard, un autre jour, mais c'est en fait, ça veut dire que il est dans cet état-là, et il ne peut pas sortir, il ne peut pas s'extraire de cela. Vous savez, des fois, on encourage les personnes dans leur travail en leur disant « mais au moins tu es sincère ». C'est une manière gentille de les encourager. Mais la réalité, c'est que la sincérité, eh bien, ça ne suffit pas. Être sincère ne suffit pas. Essayer de... et combien de personnes sincères ont échoué leur permis de conduire? C'est pas parce que... mais j'essaye, je fais, et le monde est rempli. Il y a des temples, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a tout ça, qui sont remplis de personnes sincères. Mais c'est pas pour ça que cette société va mieux. Quelle que soit la religion, dans une certaine société, la religion dominante même, eh bien, ou quelle que soit la philosophie dominante, quelle que soit l'absence de religion, les mêmes problèmes sont là partout. Là où il y a des humains, il y a les mêmes problèmes. Et ce n'est pas pour dépeindre quelque chose de terrible, mais c'est parce qu'on peut faire face à la réalité. Hein, c'est comme lorsqu'on décrit une maladie. Si on la décrit, mais si on a un remède, on peut aller jusqu'au bout de la description. Si on n'a pas de remède, si on n'a pas rien à proposer, donc il vaut mieux laisser les gens dans l'ignorance, on dit parfois. Mais, vous savez, même la sincérité, il y a un dicton en anglais qui dit que l'enfer sera pavé bonne disposition, de sincérité. Il y a plein de gens qui seront là-bas, mais qui étaient sincères. Et dans le monde, ça ne suffit pas d'être sincère. Et comment est-ce qu'on peut demander à Dieu d'approuver tous ces gens sincères? S'il y a au ciel, le ciel y ressemblerait à la terre, n'est-ce pas? C'est combien de fois nous avons été déçus par tous ces gens sincères qui sont dans l'Église. Et on a été déçus et on dit, mais bon, oui, mais parce que la sincérité ne suffit pas, elle ne sauve pas. Elle n'est pas assez pour plaire aux exigences de Dieu. Il y en a d'autres qui viennent à Dieu et disent, Dieu, j'ai tourné une page maintenant. C'est une nouvelle page et je vais vivre autrement. Hein, c'est combien de fois dans des couples, l'épouse reproche à son mari quelque chose, il dit, ça y est, j'ai décidé, à partir de maintenant, je tourne une page. Ou bien, il y a d'autres situations, ou bien un élève qui n'a pas travaillé, et puis tout d'un coup, il décide de travailler. Et on veut rattraper, et on essaie de démontrer, de convaincre l'autre personne que ça y est, la page est vraiment tournée. Mais est-ce que c'est une explication, est-ce que vraiment ça change les choses? Allez voir votre banquier à qui vous avez devé pas mal de dettes, et lui dire, monsieur le banquier, maintenant j'ai tourné une page. Le passé, c'est le passé. Dorénavant, j'emprunterai jamais plus que ce que je peux rembourser et je serai toujours à jour. Il va dire, mais c'est très bien, mais et les dettes? Qui va les payer? On ne peut pas venir à Dieu et dire, voilà, Dieu, voilà, ça y est, maintenant, j'ai décidé, je vais. Il dit d'abord, il n'est pas convaincu que ça sera autrement. Et deuxièmement, il dit, et ce qui est passé? Et ce qui était avant? Et toutes ces choses que peut-être personne ne connaît, mais que toi tu connais, que moi je connais, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas comme ça dire, pas plus qu'on peut dire au banquier, on ne peut pas le dire à Dieu, eh bien, faites-moi confiance, ça sera autrement. Parce qu'on sait que ça ne dure pas longtemps. Hein. Encore quand ça dure la nuit, c'est pas mal. Vous savez, ce qu'on arrive, on commence, la tendance ici dans le monde occidental, c'est de se concocter des croyances avec un mélange de pensée orientale, avec un peu de christianisme, un peu de philosophie. Mais le résultat, c'est que rien n'est changé. Le résultat, c'est rien qui est changé. Et il y a autant de souffrance, même en France. Et on dit, c'est extraordinaire. Et on parle de l'Amérique, mais l'Amérique, c'est pas le paradis non plus. Hein. Peut-être il est au Pérou, je ne sais pas. On m'a toujours dit qu'au Pérou, c'était bien, mais on dit c'est pas le Pérou. Mais vous savez, là où il y a des êtres humains, c'est les mêmes problèmes. Où on les cache, où on les révèle, où on en parle, hein, où on en parle, c'est le MeToo, hein, on en parle et puis on dit c'est pas beau, mais c'est là depuis longtemps. Hein. Vous savez, comment a-t-on réglé ces problèmes? Et l'apôtre Paul dit déjà à son époque, il dit, écoute, la réalité c'est qu'on est tous pris dans le péché. Vous savez, ce que je suis réellement, c'est ce que je suis quand je suis tellement en colère que je ne me contrôle plus. C'est là où je devine vraiment ce que je suis. Hein, c'est pas quand je suis devant... tout beau, devant Monsieur le maire ou quelque chose, des situations. Non, c'est pour vraiment savoir ce que je suis au fond de moi, c'est ce que je suis, c'est ce qui sort le jour où je suis tellement en colère, je ne contrôle plus mes paroles et je pense plus à ce que les gens pensent, je dis ce que je pense. Eh bien, ce n'est pas toujours beau. Hein, parfois, on est étonné. Et puis, les enfants qui font des gros yeux, wow, jamais entendu ça, jamais vu ça. Il m'étonne. Hein? Vous savez, Jésus dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La question, c'est soit le couvercle est enlevé, soit il est pas enlevé. Mais sinon, ce qu'il y a dans le cœur, c'est là. Hein? C'est un peu, souvent nos cœurs, c'est un peu comme lorsqu'on se balade sur le chemin, là, puis après une pluie, puis il y a des flaques d'eau, et puis ça fait une journée que l'eau est là. Bon, on dit, elle est propre, elle est bien, très bien. Mais allez patauger dedans et vous allez voir. Hein, ça fait remonter tout. Et quand quelqu'un vient patauger dans nos sentiments et dans nos vies, hein, ça fait remonter beaucoup de choses aussi. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il faut croire. Il faut dire, mais c'est ça que Dieu voit. Et il le voit. Je ne peux pas le cacher. Qu'est-ce que j'en fais? Hein, je peux cacher à beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de choses qui ne restent pas cachées pour toujours. Hein. Les versets... 9 à 12 traite un peu de l'état de l'homme, de son état, il est pécheur. Et puis dans les versets 13 à 18, il nous parle de ce que l'homme fait, et puis il parle de ce que l'homme fait avec sa bouche, il parle de ce que l'homme fait par ses actions, il parle des pieds, et puis il parle aussi de les pensées, et puis l'absence de conscience de Dieu. On fait abstraction de Dieu, on fait semblant qu'il n'existe pas. Et il dit, voilà ce que font les hommes. Et vous allez commencer à vous rendre compte que le problème a deux aspects. Hein. Il y a un double problème. Il y a un problème, je suis pécheur, et il y a un problème où je commets des péchés. Tous, on est pécheurs. Certains commettent plus de péchés que les autres. Mais tous, on est pécheurs. Hein. Et parce que si je commets des péchés, c'est parce que je suis pécheur. Hein. Je dis souvent... Les chiens aboient parce qu'ils sont chiens. Ils ne sont pas chiens parce qu'ils aboient. Hein, nous étions déjà pécheurs, c'est pour ça que nous péchons. Maintenant qu'on arrive à contrôler, qu'on est moins provoqué, qu'on arrive à être dans une situation où ça ressort moins souvent, c'est autre chose. Mais n'importe comment, nous sommes pécheurs. Vous savez... Cain a refusé de tuer un agneau pour l'offrir en sacrifice comme son frère. Quand son père, quand Dieu lui a parlé, il lui a dit, écoute, si tu... Il dit non. Il a refusé de tuer un agneau pour adorer le Seigneur. Mais il a pu tuer son frère par jalousie. Et ça, c'était l'homme qui n'avait jamais entendu parler d'un crime avant, qu'il n'avait jamais vu. Et il a pu le faire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont pris de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose qui est passé. Et depuis ce jour, l'homme est pécheur. Et il n'a pas besoin, il y a tant de choses, on n'a pas besoin d'être éduqué pour savoir pécher. On arrive à faire des choses, mais tout naturellement, hein, qui est... Avant que les enfants commencent à aller à l'école, déjà, ils arrivent à mentir. On ne peut pas dire qu'ils ont appris ça à l'école. Il y a des choses qu'on met la faute sur l'école. Mais il y a des choses déjà à la maison. Et il y en a qui sont... Ils n'ont même pas un petit frère, un grand frère. Ils n'ont même pas une grande sœur. Et déjà, il y a certaines choses qui existent. Mais ça vient d'où? C'est que c'était déjà là. Et en fait... cette vérité, c'est pas une légende qui remonte. Les légendes, on les connaît. Elles sont caractéristiques. C'est quelque chose qu'on racontait. Avant, j'étais habité Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un monsieur Denis qui est devenu saint parce qu'il portait le christianisme vers les autochtones de la région, hein, les Gaulois de la région. Et puis eux, ils l'ont pas bien reçu. Ils l'ont décapité, et puis lui, il s'est baissé, il a ramassé sa tête, il l'a porté, il a marché 7 kilomètres. Bon, vous dites, c'est vrai ça? C'est pas... Même si je vous disais que c'était vrai, vous ne le croiriez pas. C'est une histoire, et donc on raconte, et puis mais on sait, une légende, ça ressemble à une légende. Mais ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ne fait que se confirmer tous les jours. Il y a un réel problème qui s'est passé, hein, le péché, et depuis, on est pécheur. Et donc, ce verset 19 hein, qu'on a ici, donc Romains 3, 19, il nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu pour coupable. » Et au verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Il a dit, la loi n'a jamais été donnée pour sauver, mais seulement pour nous dire qu'on n'était pas à la hauteur. Hein? S'il y a un étalon du maître quelque part, c'est pour me dire que mon maître, il n'est pas juste. Il ne corrige pas mon maître. Il ne le transforme pas. Mon bout de tissu ne devient pas plus long parce que... Non, non. C'est l'étalon ne fait que dire voilà ce qu'est un maître. Et tout ce qui est moins, eh bien, n'est pas un maître. Et tout ce qui est plus, c'est pas un maître. Et en fait, c'est donc le verset 23, hein, que dans les passages suivants, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Tous les pécheurs ont péché. Et parce qu'ils sont pécheurs et parce qu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, là, c'est là où la grâce de Dieu et l'amour de Dieu interviennent. La loi nous a été donnée, c'est pour nous donner cette connaissance du péché, pour que je me rende compte, hein, c'est pour me dire que je suis malade. Quand je fais une analyse de sang, je vais, et alors on me dit, voilà ce qui est normal, et voilà le vôtre. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est pareil. Il y a la norme, et puis après il y a mon état. Et je fais face, ou je l'ignore, je fais semblant, c'est de n'importe quoi. Ça. Je peux faire ce que je veux. Mais la réalité, elle est quand même là. Et là, devant Dieu, je fais l'analyse et j'ai les résultats. Il me dit, voilà, Jésus-Christ, c'est la norme. Toi, où est-ce que tu es? Et voilà, c'est ça, c'est tout. Il dit, maintenant, tu l'acceptes. D'accord? Après, j'ai quelque chose à te proposer. Tu ne le crois pas? Écoute, assume. Et Dieu nous laisse assumer. Et donc, c'est pour ça que le verset 21, j'ai continué jusqu'au verset 21, parce qu'après on va le développer plus tard, mais il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, déjà, pour être conscient des exigences de Dieu, ce que Dieu recherche, vous avez la loi de Moïse, vous avez ce que les prophètes ont donné. Et cette justice, on peut l'avoir par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pas pour tous ceux qui ont les moyens, pas pour tous ceux qui ont la disponibilité de faire des choses. Hein, les religions nous disent, écoute, si tu arrives à te libérer tous les dimanches pour être à l'église, si tu peux donner à l'église, si tu peux... il faut avoir les moyens. Mais celui qui n'a pas les moyens, il fait comment? Et comme la majorité du monde, des habitants de la Terre sont très démunis, alors eux n'ont aucune chance. Hein, les religions excluent la majorité du monde. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire toutes les œuvres qu'on demande d'eux. Et c'est une grosse injustice. Il n'y a rien de plus injuste que les religions, que les hommes inventent. Ça doit être ceux qui ont les moyens qui les inventent. Mais Dieu a dit, moi, je donne quelque chose de juste. C'est que c'est par la foi. Et la foi est à la portée de chacun. Il dit, un enfant peut l'avoir. Celui qui n'a pas fait de grandes études peut l'avoir. Et peut-être il l'a plus facilement. Et il dit, chacun peut l'avoir. Parce qu'on a accès par la foi. Aucune distinction, il n'y a personne qui est avantagé. C'est par la foi, c'est de croire. Croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous proposer une issue à la situation. Dieu a vu avant nous le pétrin dans lequel nous nous trouvions. Et il a envoyé Jésus-Christ qui s'est proposé pour prendre notre place. Il est devenu, il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous dit, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a pris notre place, il nous donne sa justice, il nous donne son vêtement. Il dit, écoute, va te présenter à Dieu. Tiens, prends mes habits et puis va te présenter au Père avec ça. Et puis, moi, il passe, je te reconnais. Mais nous sommes en Jésus-Christ. Donc, c'est sûr que ce qu'on vient de dépeindre, c'est triste, mais c'est la réalité, hein, que ça nous plaise ou pas. Mais la question, c'est que nous avons une réponse. Jésus-Christ est là. Et c'est... En fait, nous avons un cancer spirituel en nous. Et je peux faire semblant qu'il n'est pas là. Et puis, il se propage dans nos vies, tranquillement. Et et puis jusqu'à ce que c'est lui qui détermine notre fin. Ou bien, je reconnais que ce cancer est là. Ça ne me plaît pas, mais il est là. Donc, je m'adresse à celui qui peut me délivrer de ce cancer du péché et qui a le remède et qui peut me sauver. Et puis après là, c'est un autre avenir. Et c'est une éternité. Et c'est la gloire. Et tout à l'heure, nous chantions de cette joie d'avoir eu nos péchés pardonnés. Vous savez, vous avez entendu parler de cet avion Boeing qui s'est écrasé en Éthiopie. Hein, le Boeing 737 MAX. Et qu'est-ce que les gens ont fait tout de suite? Ils ont dit, il y a un défaut. C'est le deuxième qui s'écrase, il y a un défaut. Et vers qui est-ce qu'on s'est tourné? Vers Renault? Vers Mercedes? Ferrari? Pas du tout. On s'est tourné vers Boeing. C'est toi qui l'as conçu, c'est toi qui le répare. Eh bien, s'il y a un problème chez nous, qui est-ce qui nous a conçu? Qui est-ce qui nous a créé? C'est vers lui qu'il faut se tourner. Nous ne tournons pas vers un autre. Tournons-nous vers celui qui nous a créés, celui qui nous a conçus. Et c'est lui qui nous propose, il dit, la réponse, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ pour te mesurer, tu as Jésus-Christ pour te sauver, et tu as Jésus-Christ pour te faire parvenir jusqu'à la gloire céleste. Juste, je termine avec ce verset qui vient toujours de Romains 6, 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne dit pas le salaire des péchés. Un jour, je reviendrai là-dessus. Il ne dit pas le salaire des péchés, il dit le salaire du péché. Même si, supposons qu'on ait un spécimen parmi les humains qui n'ait jamais péché, mais il est quand même pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le don gratuit. Ça ne s'achète pas. On ne peut pas acheter un cadeau. Le don gratuit de Dieu, il l'offre. Il dit, maintenant tu peux prendre ou ne pas prendre. Si tu prends, voilà ce que ça t'apporte. Si tu ne le prends pas, voilà où tu vas. Et le choix est là. Et normalement, cette os qu'on a sur les épaules, il y a un cerveau dedans. Et qui peut réfléchir, qui peut raisonner. Et c'est à nous de faire un choix. C'est pas intelligent de dire, je fais semblant que ça n'existe pas. Ce qui est intelligent, c'est de dire, je fais face à la réalité. Et j'assume et je prends les décisions nécessaires. Oh, que le Seigneur nous aide. Pour nous qui avons déjà compris, et bien que nous puissions apprécier, puis on sache l'exprimer aux autres, et pour ceux qui n'ont pas saisi complètement, ben que le Saint-Esprit vous aide par sa parole à vraiment comprendre la réalité de cela et dire, bon, ben si Dieu le dit, c'est un Dieu qui est bon, donc il ne le dit pas pour être méchant, il le dit parce qu'il peut me sauver, il a quelque chose à me proposer. Et il a une autre vie, un autre avenir pour moi. Et donc, ne soyons pas comme celui qui échappe au feu pour tomber, qui saute de la poêle pour tomber dans le feu. Hein? Mais faisons le bon choix. Que le Seigneur nous aide et puis, c'est bien sûr, ça peut nous faire penser à d'autres autour de nous, des bien-aimés, et prier le Seigneur. Le Seigneur veut plus que nous qu'il soit sauvé, mais prions avec lui et dans le même sens, et que le Seigneur nous encourage. Mais surtout, chacun doit passer par cette étape où il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il a péché, qu'il n'est pas à la hauteur. Et ce serait injuste de Dieu de juste fermer les yeux et laisser passer. Il ne peut pas, il irait contre nature. Mais ce qui est dans sa nature, c'est d'offrir son Fils, son bien-aimé, en sacrifice pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Je prends, donner quelques moments de silence pour que nous puissions prier, exprimer ce que, à Dieu, ce que les pensées qui vous sont passées par l'esprit, et puis je vais prier après.